Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. Est-ce que vous avez un bon souvenir ? Je fais toujours le test pour savoir si véritablement vous avez retenu les leçons précédentes. Alors, je ne vais pas vous poser la question, mais pour la troisième fois, eh bien, nous allons finir cette série qui concernait Jacob. Ça vous dit quelque chose maintenant, hein ? Voilà, c'est très bien. Alors, en ce qui concerne Jacob, nous allons donc parler une dernière fois de Jacob et son miroir. Ça, c'est important. Donc, en ce qui concerne Jacob, ça pourrait être illustré de cette manière, et nous l'avons cité les fois précédentes, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. Et voilà comment Dieu prend en main un homme qui va devenir un grand homme de la Bible. Nous pourrions même dire, en effet, un patriarche, il est patriarche. Nous allons, en effet, voir que le but, c'est pas seulement de venir à l'église, de chanter des cantiques, d'exprimer tout ce que nous savons faire pour honorer Dieu, mais une chose qui est certaine, c'est que ce genre de rassemblement que nous avons, c'est véritablement nous amener à progresser et à nous développer dans notre vie spirituelle, parce que notre destination n'est pas cette terre, mais elle est au ciel. Alors ceci dit, souvenez-vous, ce qui est important, ce qui est quelque chose, c'est devenir une nouvelle créature. En ce qui concerne Jacob, il y avait donc dans le premier rendez-vous que nous avons en effet partagé, le bâton du pèlerin, qui est véritablement les années devant soi, où nous voyons un Jacob plein d'agitation, plein d'intrépidité. Le deuxième rendez-vous que nous avons partagé ensemble, c'était tout simplement le bâton du châtiment et de la discipline qui fait d'un chrétien, d'un croyant, un homme nouveau. Et puis, naturellement, la conclusion que nous allons voir aujourd'hui, troisième partie, c'est le bâton de l'adoration. L'homme charnel, l'homme psychique qui va véritablement être à l'école de Dieu, et puis l'homme spirituel, c'est-à-dire ce bâton de l'adoration. Et là, nous pouvons dire, Jacob a eu trois vies. La vie devant soi, quand il était jeune. La vie, tout simplement, là, en soi, l'éclatement et l'orgueil de la personnalité, ce qu'on appelle l'ego. Et puis également, le bâton de l'adoration, qui est celui, en quelque sorte, le bâton derrière soi. C'est-à-dire que là, nous sommes arrivés. Et je voudrais être assez bref, parce que finalement, là, c'est un sujet qui est tellement important, parce que nous allons parler de notre destinée éternelle. Ça, c'est important. Nous sommes préparés depuis le jour où nous sommes convertis à Jésus-Christ. Nous avons cru par sa grâce. Nous avons et nous sommes privilégiés, bénéficiaires de la croix de Jésus, et tout ça dans un but. C'est pas pour être un bon chrétien sur la terre, naturellement, mais c'est pour véritablement être prêt, fait, homme fait en Jésus-Christ, pour passer l'éternité avec celui qui nous a sauvés. Alors, Jacob, numéro 3, miroir et regard de cet homme. Nous allons reprendre notre texte de base, très court, Genèse, chapitre 32, verset 24. Alors, ça va vous remettre un petit peu dans la pensée. Je rappelle, Genèse, chapitre 32, 24. Et il est dit ceci. C'est vrai que, avant les grands bouleversements de notre vie, à un moment ou un autre, Dieu nous place seul face à nous-mêmes. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mange point le tendon qui est à la boiture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Voilà. Alors, c'est un petit peu, en effet, peut-être, à expliquer tout cela. Dieu, passez-moi l'expression, mais Dieu a cassé Jacob. Oui, il l'a cassé. C'est Dieu qui l'a cassé, c'est pas Jacob qui s'est cassé. Hein? Beaucoup d'hommes cassent Dieu, ça c'est sûr. Mais là, je rappelle, Dieu a cassé Jacob. Mais que signifie cassé par Dieu? Vous avez peut-être une petite idée. Peut-être ça évoque des moments difficiles de votre vie. Peut-être avez-vous souffert des choses incompréhensibles que vous ne comprenez pas maintenant, mais vous allez les comprendre plus tard. Ça, c'est sûr. Alors, nous voyons qu'il y a un texte qui va illustrer bien ce propos, être cassé par Dieu, dans le livre de Job. Je vais donner des citations parce qu'une étude, ça mérite finalement qu'il y ait des explications, parce que ça, c'est important. Alors, écoutez bien, dans Job, il est dit ceci, « Heureux l'homme, chapitre 5, heureux l'homme que Dieu châtie, ça ne veut pas dire détruire. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, parce que si tu ne sais pas pourquoi il le fait, eh bien Dieu sait pourquoi il le fait. C'est pour faire comme il a fait à Jacob, pour t'amener plus loin. Il fait la plaie, Dieu fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Six fois il te délivrera de l'angoisse, sept fois le mal ne t'atteindra pas. » Restez avec cette pensée. Parce que finalement, c'est la trajectoire que va nous, dans laquelle va nous emmener Jacob. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que désormais, Jacob, écoutez bien, ne cassera jamais plus personne. Quand je vous ai parlé des différents bâtons, il tapait sur les autres avec son bâton. Et il était souvent là dans une révolte quand il était à l'école de Dieu, la deuxième partie. Mais je voudrais simplement souligner que maintenant c'est fini pour Jacob. Il ne va plus taper sur les gens. Parce que on connaît son caractère, il est impulsif, il est vaniteux, il est orgueilleux, il veut être le premier, etc. etc. N'y aurait-il pas des chrétiens à ce caractère-là? Ah oui! Pour qui se prennent-ils? Qui sont-ils pour faire des choses pareilles? Mais c'est pas pour ça que Dieu ne les aime pas. C'est pas pour ça qu'il va les rejeter. C'est pas pour ça qu'ils sont perdus. Mais ils vont passer entre les mains divines pour être transformés, changés. Et c'est ça la question que nous avons à répondre. Une grande page de la vie est tournée de Jacob. Cependant, ajoutons cette remarque que nous trouvons dans le texte. Un homme, point d'interrogation. Les commentateurs nous parlent d'un ange dans cette circonstance. Alors quelquefois, ça peut être les hommes qui nous dressent. Mais ça peut être aussi un envoyé céleste qui vienne nous accompagner pour que véritablement nous rentrions dans le plan de Dieu. un homme frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, ça doit faire mal, et nous voulons relever cette chose qu'un boiteux a besoin d'un bâton pour marcher. Eh oui, on le voit chez les personnes âgées. Aujourd'hui, c'est peut-être plus tellement des bâtons, mais c'est des ambulateurs et toutes sortes de choses pour pas qu'ils tombent, naturellement. Et c'est vrai que quand on a été frappé, et surtout dans la partie inférieure de notre vie des jambes, et il nous est dit cette parole, « J'ai vu, dit Jacob, Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » C'est la première fois qu'il le dit. Il fallait qu'il passe par là. C'est toute une vie, Jacob. Combien je vous ai dit qu'il a vécu ? 127 ans. Bravo ! Invitez-moi à votre anniversaire quand vous aurez atteint ce moment-là, parce que bon, c'est quelque chose de particulier. Mais il faut du temps à Dieu pour faire un homme, pour faire un chrétien, pour faire véritablement eh bien, un saint. Nous sommes sanctifiés tout le long, mais pour d'autre côté, eh bien, nous rentrons dans une autre dimension. Nous voyons que Jacob va comprendre peut-être pour la première fois, une âme blessée, c'est une âme domptée. Il a du mal avec nous, le Seigneur. Ah, il a vraiment du mal parce que, vous savez, je crois que c'est, je me souviens plus de son prénom, mais Cohen, quand il a écrit son fameux chant, où Dieu dira en explication à un homme qui lui pose la question, un chrétien, « Je suis passé par tes blessures pour te montrer la lumière. » Moi, je pense que c'est véritablement une parole à propos. Hein. Ouais, c'est quelque chose d'important. Il nous est dit simplement dans le texte, « Le soleil se levait quand Jacob passa Péniel. » Et là, à ce moment, la constatation, c'est qu'il boitait de la jambe. Et il va boiter jusqu'à la fin de sa vie. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui a été pris, enlevé, nécessaire pour être enlevé. Et puis il y a quelque chose qui va hériter, c'est véritablement son infirmité. Celui que nous connaissons comme le vigoureux Jacob est devenu boiteux. Alors il va moins vite, il va moins loin. Et son bâton d'autrefois n'a même plus le même usage comme nous l'avons dit parce qu'il tapait sur les autres avec. Ça, c'était le bâton de jadis. C'est lui qui faisait marcher les autres. Désormais, le même bâton, eh bien, le portera. Et il va sentir à ce moment-là, en se souvenant de son infirmité, en se souvenant de sa souffrance à Péniel, eh bien, il sentira le poids de la misère d'un monde méchant et impitoyable dont il avait fait partie. Ouais. Vous savez, le fait d'être en Église, le fait de vivre en communauté, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, le fait de vivre ce que nous vivons à travers des tribulations, à travers toutes sortes de choses, n'est pas le fait, c'est pas fortuit, ce n'est pas le fait du hasard, c'est que Dieu nous aime. Vous y croyez à ça ? Que Dieu nous aime ? Mais on n'aime pas quand il nous reprend, hein ? On n'aime pas quand il nous met sur... Parce que lui, il a un projet dont nous supposons même pas nous-mêmes. Eh oui, c'est ça. Mes frères, aspirez à la sanctification et ne vous révoltez pas quand il y a des situations que vous croyez qu'elles sont fortuites, que c'est les autres, que c'est vos frères et vos sœurs qui vous font du mal. Non, 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 non. Une chose qui arrive, c'est une chose qui est permise. Alors ne vous affolez pas. Hein. Mais moi, je vous le dis, je vous le répète, parce que nous avons véritablement une leçon cardinale, une leçon capitale dans la vie de Jacob que nous sommes en train d'étudier. Alors à ce moment-là, pour Jacob, Dieu sera sa seule consolation et son bâton d'infirme sera son soutien. Eh oui, il ne lui reste pas grand-chose. Avant, il avait les forces, il avait l'imagination, il avait toutes sortes de combines, toutes sortes de choses. Maintenant, il ne lui reste plus son bâton à la main, c'est tout. Et ça va être son soutien. S'il y a une leçon à donner maintenant à tous ceux qui ne peuvent marcher spirituellement sur leurs deux jambes, oui, quand on est en pleine forme, on marche sur nos deux jambes, on est en santé. Mais spirituellement, dans le domaine de la spiritualité, alors à ce moment-là, eh bien, véritablement, si nous ne pouvons pas, bien Dieu va nous donner un bâton, tout simplement, pour que nous puissions une troisième jambe, en quelque sorte, qui va devenir un tuteur, je l'appellerai orthopédique, comme on fait pour les hommes, hein, de toute façon. Hein. pour qu'il puisse continuer à vivre, pour qu'il puisse continuer à marcher. Et on voit Jacob, si vous voulez bien l'imaginer avec moi, marchant, clopant, clopin, ou clopin, clopant. Et nous voyons qu'il va véritablement maintenant d'en rentrer dans une autre dimension, parce qu'il est blessé, parce qu'il le sait, qu'il ne remarche en moi plus, et que Dieu lui a enlevé quelque chose pour lui redonner autre chose. Quelque chose qu'il va avoir vraiment besoin. Et nous voyons que les coups qu'il va prendre, parce que c'est ça ce que je voulais vous dire, l'école, elle est là, hein, les coups qu'il va apprendre sont sévères, et les preuves, je vais vous les donner, les unes après les autres maintenant. Par où il est passé? C'est peut-être pas là où là vous allez passer, mais chaque vie a son dessein, hein, en quelque sorte. Alors la première chose qui va véritablement être l'école de Jacob, ça va être celle-ci. C'est la violence de ses fils. L'un s'appelle Siméon et l'autre Lévi, parce qu'ils vont véritablement être quelque part humiliés. Mais humiliés pourquoi? Ils vont avoir l'orgueil froissé, et ça va être véritablement quelque chose de difficile pour leur père Jacob, qui va pleurer longtemps, sur leurs actes meurtriers. Vous savez comment ça s'est passé pour Siméon et Lévi, princes de tribu en quelque sorte? Ils vont commettre un meurtre sur toute une tribu. Et nous voyons que dans les textes de Genèse, chapitre 34 et verset 30, c'est le déchirement de la mort de la femme. En effet, il avait une fille, Jacob, qui s'appelait Dina, et les frères jaloux, eh bien, on tuait toute une tribu parce que le chef, le prince, avait violé cette fille. Vous savez, il y avait tout à l'époque. Hein. Et aujourd'hui, on se demande si véritablement on n'est pas dans le même monde. Sodome et Gomorre, hein, quelque part. Hein. Alors, ça va être quelque chose qui va blesser profondément. Il a deux fils meurtriers qui vont tuer, finalement, eh bien, une tribu, parce que ces deux-là ont violé la fille d'un prince d'une autre tribu, quelque sorte. Ce n'est pas une tribu d'Israël. Hein. Et puis ensuite, la deuxième chose qu'il va vivre, c'est le déchirement de la mort de la femme que Rachel, qui s'appelle Rachel, la femme qu'il aime. Quand Rachel va mourir, en quelque sorte prématurément, à la naissance de Benjamin. Premier coup. Deuxième coup. Avec des tristes conséquences de paroles prononcées. Et sous le coup de la colère, eh bien, ça va être une tragédie aussi pour Jacob. Vous pourrez le relire, Genèse, chapitre 31. Ensuite, c'est la disparition mystérieuse de son fils préféré, Joseph, qui va être honteusement vendu à des Madianites qui passent là, des caravanes, et qui vont l'emmener en Égypte. Et on va faire croire, parce que c'était quand même une sacrée bande, hein, les fils de Jacob, hein, comme lui a été d'ailleurs dans sa jeunesse en quelque sorte, et il va être livré à l'Égypte, au roi d'Égypte, au pharaon d'Égypte, à cause tout simplement de la jalousie. Joseph dira, mais Dieu m'a mis de côté, il m'a placé comme les étoiles dans le ciel. Alors les frères, ils n'ont pas accepté ça, hein, parce que ça ne pouvait pas marcher. Et il va y avoir naturellement, eh bien, simulacre d'assassinat. Ils vont, comme s'ils avaient égorgé Joseph, ils vont mettre un bouc à la place pour faire croire à leur père que finalement, eh bien, il est bien mort. Et pendant des années, oui, certainement une vingtaine d'années, Jacob ne reverra plus son fils préféré. Ça va être quelque chose de terrible. Hein. Ça, c'est aussi ce qu'il nous est dit. Troisième preuve, quatrième preuve, cinquième preuve, c'est aussi l'enlèvement conditionnel de Benjamin, le dernier des derniers des fils. Eh bien, de Jacob, comme une rançon, en quelque sorte. Oui, comme une rançon, on va l'échanger pour que finalement, eh bien, là, les choses se passent d'une autre manière. Et parce qu'il y a une famine sur le pays de Canaan, où se trouve Jacob, et là, on va donner finalement la vie de Benjamin pour avoir du pain. Parce qu'il y a du pain en Égypte, il n'y en a pas à Canaan. Et ça va être aussi toute une histoire pas possible. Hein. Au temps de la famille, eh bien, Jacob va se résigner. C'était le dernier des enfants. Et il était né naturellement de la femme qui est née, mais qui est morte, Rachel. Et nous voyons que ça va être un, sordide échange qui va se produire à ce moment-là. Alors, je vous ai donné ça un petit peu en diagonale, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai des notes naturellement de tout ça. Mais bon, on ne va pas naturellement, eh bien, on va aller encore un peu plus loin. Je voudrais, si on peut sortir quelques vérités encore, il faut plus qu'un bâton bien solide pour supporter toutes ces épreuves. Parce qu'il en a vu, hein. Il en a fait voir aux autres, mais maintenant c'est son tour. Et Dieu le permet. Et il sait que s'il permet ça à Jacob, c'est que Jacob est capable de le supporter. Parce qu'autrement, Dieu ne va pas vous mettre dans une situation en disant « Mais je ne comprends pas, Seigneur, je me sens si faible. » Mais si Dieu nous dit que finalement nous sommes forts par sa grâce et dans la foi, c'est que nous allons tenir le coup, hein, quoi qu'il en soit. Nous allons tenir le coup. Alors, nous voyons que à ce moment-là, la futilité, la superficialité de Jacob va passer ses années à venir à pleurer. Un père qui pleure de tout ce qui se passe. Mais voyons pourquoi. Alors Jacob va pleurer sur son bâton et son bâton va devenir véritablement l'ami. Hein, parce que les larmes, je dis bien, écoutez bien, ça c'est quelque chose d'important, les larmes lavent les taches de notre vie. Eh oui, c'est pas un mérite, mais je peux vous dire que Dieu permet que nous pleurions sur notre propre sœur, que nous pourrions sur les conséquences des fautes que nous avons commises, parce que ça va laver nos tâches. Et vous savez ce que c'est une tâche? C'est un péché, ce sont les péchés. Et là, il va méditer là-dessus, hein, parce qu'il va avoir de quoi faire. Hein. Et nous voyons que si nous pleurons devant Dieu, parce que ça, c'est une véritable repentance, hein, de dire « j'étais, je suis, mais maintenant, tu m'appelles à vivre autre chose, où je ne pleurerai plus ». Ou si je vais pleurer en raison de ma repentance et de ma découverte que tu es mon Dieu. Tu n'es pas le Dieu de mon père, d'Abraham, d'Isaac, etc., etc. Tu es maintenant mon Dieu, je peux t'appeler mon Dieu. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et vous savez que quand on pleure, normalement ça nous jette dans les bras de celui qui pardonne et de celui qui console, parce que tout jugement de Dieu... Et moi, je voudrais vous dire que les jugements de Dieu sont bienveillants pour ses enfants. Tous jugements de Dieu sont contenus dans sa grâce. C'est le mot-clé de toute la Bible, la grâce. Et la grâce, c'est faire miséricorde à celui qui mérite d'être puni. Et Dieu fait grâce quand il y a, eh bien, repentance, et que nous pleurons sur nos péchés, que nous prenons conscience de ça, hein, et que nous avons vraiment envie, profondément envie de changer. Ouais. Ça nous amène, eh bien là, en face de la grâce, et je crois que Jacob, quand il regarde dans son miroir du passé, eh bien, il se dit, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Il y a bien des choses que je sais qu'il a fait pour moi, je les ai en mémoire, je les ai vécues, j'en ai souffert. Mais si je vous disais ce matin que Dieu vous l'a peut-être pas dit, que Dieu, pour les uns et les autres, a fait des choses extraordinaires que vous ne savez pas et que vous n'avez pas vues encore. Et vous vivez comme ça. De l'autre côté, on verra l'enfer du décor, parce que vous savez, quand on se ressemble, quand on se rassemble, on se dit « Seigneur, dans les cultes, merci Seigneur pour ça, merci, tu m'as guéri, tu m'as donné du travail, etc. etc. » Mais moi, je voudrais vous dire qu'il y a une autre version. C'est que Dieu sait ce qu'il a fait pour vous, personnellement, intentionnellement, et que vous n'avez jamais su, jamais connu. Quelquefois, nous avons quelques pressentiments. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me revient. J'avais 8 ans, j'ai failli me noyer dans la Vienne. Vous voyez, j'allais partir, hein, ça, pour moi. Et c'est 20 ans après, ou 15 ans après, que je me suis aperçu que c'était Dieu qui m'avait sauvé. Je me dis, mais Seigneur, j'ai vécu avec ça, mais je ne savais pas que tu l'avais fait. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que je ne suis pas dans l'eau. Hein. Enfin, façon de parler, mis à part ce matin. C'est ça. Il y a des choses que Dieu ne nous dit pas, qu'il ne va pas nous dire, et que nous sommes finalement remplis de sa grâce, et nous ne savons pas. Mais tu le sauras bientôt, mon frère et ma sœur. Quand nous arriverons de l'autre côté, il y aura véritablement les choses conscientes et les choses dont nous n'avons pas été conscients sur la terre. Et pourtant, Dieu nous a donné eh bien sa grâce et il nous a montré combien sa main est bienveillante et elle est remplie de compassion. la grâce de Dieu qui fait pénétrer la vie nouvelle en nous à un moment donné. Le bâton de son infirmité à la main, la marche de Jacob sera difficile et à partir de Péniel, le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous allons découvrir cet aspect des choses, cette parole gage de son expérience à Jacob et de rencontre spirituelle avec Dieu. C'est là où il va rencontrer Dieu vraiment. Jusqu'ici, bah, il avait Bethel, oui, bien sûr. Hein, la révélation de l'échelle, etc., etc. Mais ça ne l'avait pas changé, hein, pas du tout. Hein. À ce prix d'obéissance par lequel Dieu nous fait passer, à ce prix de douleur, à ce moment-là, Jacob, dans une ultime lutte avec un homme, je vous ai dit, hein, un ange, ou, voilà, tout simplement, eh bien nous voyons qu'il lui a été attribué un nom nouveau. Dites-moi, que vous appeliez Pierre, Jacques, ou, et puis avec votre nom patronyme, votre patronyme. Vous connaissez naturellement, peut-être vous en avez plusieurs, hein, des prénoms qui se suivent, etc., etc. Vous les connaissez. Et vous savez que nous sommes en train de préparer un nom nouveau pour le séjour céleste. Dieu va nous changer et notre nom sera sur un caillou. Ouais, un rocher en quelque sorte, un caillou. Il va recevoir un nom nouveau. « Quel est ton nom ?» dira l'homme qui combat avec Jacob. Et vous savez, dire son nom, confesser son nom dans un comptoir de mairie ou autre chose, peu importe, hein, eh bien c'est une confession de ce que nous sommes. Moi, je m'appelle avec mon nom, mon prénom, avec toute mon identité. Mais quand je déclare, quand on me dit quel est votre nom, comment vous appelez-vous? Ben, je déclare ce que je suis personnellement, physiquement, moralement, psychologiquement, finalement en tout. Hein. Et Jacob veut dire... Alors, s'il dit son nom, il veut dire ceci d'abord, dans un premier temps. Écoutez bien. Je m'appelle trompeur. Je m'appelle roublard. Je m'appelle intrigant. Je suis un orgueilleux. Ça, c'est le nom charnel. C'est le nom de Jacob. C'est le nom de celui qui fait les pires bêtises et qui enquiquine les autres. Eh oui, on peut dire ça comme ça. Si. Ainsi, pour nous bénir... Dieu veut nous amener à reconnaître la réalité profonde de notre identité pour nous renommer, comme dans l'informatique, hein, pour nous renommer d'un nom nouveau. Ton nom ne sera plus Jacob, écoute bien, c'est ton Dieu qui te le dit, mais tu seras appelé Israël. Et vous savez ce que ça veut dire Israël ? Vainqueur ! Il n'est pas vainqueur des hommes, Jacob. Il est vainqueur, finalement, de lui-même. Et vous savez les victoires que Dieu veut nous faire prendre. Ce n'est pas d'avoir du succès avec les dons spirituels, avec la prédication, avec tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez, d'une manière ou d'une autre. Ça ne comptera plus. Ça sera fini, tout ça. Mais il veut que nous soyons nous-mêmes dans notre personne, personnalité, identité profonde, parce que de l'autre côté, nous serons Israël. Celui qui a vaincu. Qui a vaincu, qui s'est vaincu, en quelque sorte, hein. Alors, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. En la personne d'Israël, un homme nouveau est né. Nous, nous sommes passés par la nouvelle naissance. Et ce n'est pas parce que nous sommes passés par la nouvelle naissance que nous avons confessé Jésus-Christ, que nous avons cru et que la foi est venue dans notre cœur, que nous nous sommes convertis à Jésus. Ce n'est pas pour ça. Parce qu'il y a toute une vie maintenant. C'est ce qu'on appelle la régénérescence. La nouvelle naissance, le revêtement, l'effusion du Saint-Esprit dans notre vie, parce que nous sommes des hommes nouveaux. Et quelquefois, nous conformons, souvent malheureusement, je dois le dire, même moi-même, eh bien, comme des hommes, comme s'ils n'étaient pas changés. Dieu veut que nous soyons changés. On a fait tout un périple dans plusieurs églises, et avec des frères qui ont été véritablement des frères, mais des frères d'accompagnement pour le pasteur que j'étais. Et je peux vous dire qu'on les a connus jeunes, bon maintenant ils sont partis dans la gloire, mais ils nous ont laissé des héritages extraordinaires, parce qu'on les a vus aussi progresser, et quand ils sont devenus au grand âge, eh bien c'était des hommes qui étaient faits en Jésus-Christ. Ouais. On les a connus peut-être impulsifs, on les a connus ceci et cela, etc. Hein, et puis avec tous les défauts humains que l'on peut avoir, hein, parce qu'il n'y en a aucun qui fait défaut, hein, dans cette, qui fait abstraction de tout ça. Mais moi, je pense que c'est bien quand on voit nos anciens, qui quelque part ont mûri à travers toute une vie, et il ne faut pas moins d'une vie. Et moi, je voudrais inviter nos jeunes, où il y a tant, tant et tant de fantaisies. Je ne veux pas dire, nous on a été jeunes, mais je veux dire par là que, attention, on vit dans un monde qui vous trompe. On vit dans un monde factice. On vit dans un monde d'illusions. On vit dans un monde où finalement toutes les barrières sont ouvertes. Mais qu'est-ce que vous allez devenir, nous les jeunes? C'est pas que je voudrais vous décourager, mais vous avez plutôt intérêt de prendre Jésus-Christ avec vous. Parce que je peux vous dire que les tentations, il va en avoir. Si vous voulez servir le Seigneur, vous allez en avoir doublement, triplement. Parce que c'est comme ça. Et mes frères et sœurs, soyez attachés à la personne de Jésus. Vous avez fait un tant soit peu quelques pas avec le Seigneur. Continuez à marcher avec lui. Et vous allez voir que marcher avec le Seigneur, comme Jacob le voulait, mais il marchait à sa manière, eh bien, une chose qui est certaine, c'est que vous allez avoir 2-3 fois plus de combats et de luttes. Et pourtant, Dieu nous dit que quelque part, il a permis que ça soit fait, des tentations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et si vous vous attachez à moi, eh bien, vous allez vaincre aussi. Et vous allez monter, vous allez grandir. Et vous deviendrez des hommes faits en Jésus-Christ. Ouais. Moi, je le dis parce que, bon, je dirais comme David, hein, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Hein, vous connaissez le thème. Et on n'a pas vu, on n'a jamais manqué de quelque chose avec le Seigneur. Mais attention, le monde est séduisant. Là, vous allez partir pendant 8 jours, pas 8 jours, 3 jours. Et c'est pas parce que vous allez partir pendant 3 jours que vous allez revenir complètement transformé. Hein. Ça va être quelque chose que vous allez entendre. Vous pouvez revoir le déclic peut-être d'une parole qui va vous toucher. Mais attendez, ce n'est que le commencement. Comme les gens qui se font baptiser, ils se disent maintenant je suis baptisé, je suis complètement tranquille. Mais c'est vrai qu'il y a un passage. Vous êtes passé par Péniel. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est pas que c'est fini, ça ne fait que commencer. Mes frères et sœurs, priez pour nos jeunes, parce que moi j'ai beaucoup d'inquiétudes. À commencer par ceux que nous connaissons, ceux que nous connaissons et qui nous sont proches. Ouais, avec la drogue, avec tout ce que l'on peut voir, toutes les lois qui sont complètement dénaturées. Ouais, ne restez pas des Jacob, hein, surtout, hein, parce que vous n'allez pas aller loin. Excusez-moi, mais il faut le dire comme il faut le dire. C'est pas pour faire peur. Mais vous avez l'exemple à travers le personnage que nous avons devant les yeux. Alors, Israël, Jacob, maintenant appelé Israël, est un homme nouveau. Il est né et c'est Dieu qui va le conduire. Et pour le conduire, il va le bénir. Forcément. Il va le conduire là. Parce qu'il nous a bien dit le mot, hein. Là. C'est là que tu vas t'appeler maintenant. À partir de là, tu vas t'appeler comme... C'est-à-dire, lui offrir un renouvellement de bénédiction et d'alliance. Une alliance par le baptême, c'est bien, c'est formidable. Vous êtes rentré maintenant, finalement, dans le corps de Christ. Mais il faut aller jusqu'au bout. Les sujets et ses recherches de Dieu, en parlant de Jacob, changent radicalement ce qui n'est plus. Parce qu'il parlait comme ça, Jacob. Si toi, Dieu, tu me bénis, alors attendez, c'est des conditions. Si tu me bénis, si tu me protèges, si tu m'enrichis, mais c'est seulement toi que je désire à jamais. C'est pas ce que Dieu donne qui était le plus important, c'est ce que Dieu est. Si vous avez votre véritable trésor, et que votre trésor, c'est Dieu, Dieu, sa personne, sa grâce, et tout ce que nous connaissons de ses prérogatives, alors à ce moment-là, c'est bien. Mais si vous marchez comme beaucoup de chrétiens de différentes religions, même chez nous, hein, « Seigneur, tu me bénis, tu fais ceci, tu fais cela, alors moi, je resterai fidèle. » C'est complètement faux, parce qu'à un moment donné, vous allez tomber dans des pièges. Non pas de Dieu, mais de l'adversaire. Ça, c'est sûr. Les étapes tragiques de Jacob ont été Bethel. Padan Aram, je ne vous rappelle pas ce qu'on avait fait la dernière fois. La guerre qu'il y a eu à Mahanaïm. Maintenant, le théâtre de sa vraie conversion, c'est la rencontre cruciale de Jacob, le face-à-face avec Dieu, à Péniel, type d'expérience qui nous ouvre une nouvelle vision, car on peut connaître le nom de Dieu sans le connaître réellement. Et c'est ce qu'il fera dire à Job à un moment donné. J'avais entendu parler de toi, bien sûr depuis l'école du dimanche pour ceux qui sont enfants chrétiens. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, avec l'expérience de souffrance, les maladies de Job, les tourments psychologiques, la perte de sa femme qui lui m'a maudit Dieu et puis il meurt maintenant, c'est terminé, hein, la perte de tant de choses, eh bien il pourra dire, j'avais entendu parler de toi, et pourtant il nous est dit dans le livre de Job que c'était un homme extrêmement fidèle, Job. Mais maintenant mes yeux, c'est-à-dire mes yeux et mon cœur, t'ont vu. Et vous savez, la véritable conversion parfaite, quand elle se termine, eh bien c'est que nous avons fait un lien de proximité avec notre Dieu. Et c'est toujours scellé par une repentance authentique. C'est pas du cinéma. C'est pas finalement, eh bien là, un scénario qu'on se donne. Oui, parce que vous savez, depuis tant que l'on baptise des gens, tant que l'on a vu des gens venir dans nos églises, on les a remplis les églises à un moment donné, ça je peux vous dire. Hein. Mais une chose qui est certaine, que si c'est du superficiel, eh bien, les églises qui sont remplies de cette manière, eh bien, elles se vident aussi vite qu'elles se sont remplies. Parce qu'ils ne sont pas convertis, c'est tout. Ou alors ils se sont peut-être convertis à Jésus-Christ, mais ils n'ont pas voulu aller plus loin. Encore quelque chose. À une nouvelle vision, eh bien, il y a toujours une nouvelle lumière. Jésus nous le dit, hein, je suis la lumière du monde. Une nouvelle lumière. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le texte, le soleil se levait quand Jacob passa Péniel. Une nouvelle lumière. Est-ce que nous avons la nouvelle lumière? Est-ce que véritablement il y a là quelque chose qui, eh bien, va nous détacher de notre vie arrière, de notre passé, de toutes nos... ce que nous avons pu être, pour avoir un amour pour ce qui est la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Hein. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Hein. Quoi qu'il en soit. Alors un nouveau jour fait place à nos nuits tourmentées. Hein, combien de gens, même d'enfants de Dieu, sont tourmentés dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes. Nos obscurités, nos mentalités embrouillées. Parce que Jésus est présenté dans le livre de Malachie, dans la Bible, comme le soleil de la justice, où la vérité fait marcher en plein jour. Parce que notre vie a été purifiée par le pardon de Dieu, dans la personne de Christ. Et c'est ce que nous pouvons dire, avant de passer à la conclusion, la renaissance de l'homme. Oui, une renaissance. Alors, terminons par ceci. La suite, c'est avec angoisse mortelle, lorsque Jacob doit régler ses comptes avec son frère Ésaü. Vous connaissez l'histoire du premier chapitre ? Parce qu'il a trompé son père. Jacob a trompé son père. Il a trompé son frère. Il a trompé finalement sa mère, parce que elle le considérait comme son petit Jacob chéri. Mais finalement, elle l'a desservi, hein, parce que le favoritisme, ça ne marche jamais. Hein. Ce n'est pas très très bon. Parce que nous croyons qu'il doit régler ses comptes avec son frère qu'il a malmené. Et nous voyons que toute punition mérite... Eh bien là, quelque chose, hein, ça c'est... Et il dira ceci, Ésaü, il nous est dit dans le texte, Ésaü arrivait avec 400 hommes, et Jacob se prosterna 7 fois devant son frère. Un miracle, hein. C'est lui qui avait tort, et il va se prosterner devant son frère, qui vient pour le tuer. Hein. Absolument. Et Ésaü, à ce moment-là, il fait l'œuvre d'un chrétien, parce qu'un chrétien doit pardonner. Et c'est lui qui va faire l'œuvre du chrétien. Il nous est dit qu'Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et baisa son frère Jacob. Et ensuite, ils pleurèrent. Et vous savez, quand il y a ce genre de, pas de récupération, mais ce genre de pardon, ce genre de rencontre qui solde les fautes des uns et des autres, eh bien, c'est quelque chose de formidable. Il s'est jeté à son cou, il l'a embrassé et ils pleurèrent. Et nous voyons que 20 années piétinées par le péché de Jacob et restera en un instant. Parce que quand il y a pardon, c'est fini. On n'en parle plus. Et derrière vient le soulagement. vient de nouvelles relations avec peut-être nos semblables. Là, c'est son frère. En un instant, le résultat du bâton du châtiment qui répare les cœurs fâchés à mort et qui boitent. Oui, Dieu est capable de faire marcher. De faire en sorte que les cœurs qui sont fâchés se réconcilient et que ceux qui boitent d'un côté ou d'un autre eh bien, puissent marcher droit. Enfin, Jacob, la vie derrière soi, là, on est la vie devant soi, quand il était jeune, la vie de l'école et de la discipline, ça c'était le deuxième. Il s'agit maintenant de dire, en conclusion, la vie derrière soi, il peut regarder, il y a près de 127 ans que les choses se sont passées, enfin, dans tout ce cours de temps. Vous savez, il va aller à Gozen, en Égypte. Oui, Jacob va aller en route, parce que par un concours de circonstances que je ne veux pas vous raconter, parce que vous êtes encore, vendredi prochain, vous êtes encore là, hein, c'est une sacrée histoire. Hein. Gozen, vous savez ce que ça veut dire, Gozen? C'était le pays le plus prospère de l'Égypte. Et ça veut dire lieu du soleil. Vous voyez le soleil qui se lève sur Péniel. Lieu du soleil, ou terre de force, c'est là où là, il a la vraie force, Jacob. C'est par la foi que Jacob, mourant, eh bien, adorera sur l'extrémité de son bâton. Il ne peut plus courir ni de droite ni de gauche. Hein, il est blessé. Il ne guérira jamais. Mais il y a une chose, c'est que son âme, son cœur, sa pensée, tout a été guéri à l'intérieur. Et ce que Dieu veut faire pour nous, ce n'est pas de nous guérir dans tous nos accessoires, dans tous nos projets, etc., etc. Il veut nous guérir à l'intérieur. Il veut que nous ayons la ressemblance de Christ. Oui, tout simplement pour aller de l'autre côté. Alors il va adorer sur l'extrémité de son bâton, et voici le bâton de l'adoration. Voici le bâton de l'adorateur, du véritable adorateur. Jésus l'a dit à la Samaritaine, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, et non pas avec toutes sortes de sentiments de l'âme, le cœur, la sensibilité, les affinités, etc. Ça c'est humain, et c'est ce qu'on prend, on a été créé pour, comme ça. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'un véritable chrétien est un homme fait qui va rentrer dans le paradis, qui va rentrer dans la présence de Dieu, et c'est un véritable adorateur en esprit et en vérité. Il a touché le but, quoi qu'il en soit. Quand nos yeux se refermeront, quand nos yeux se referment sur ce que nous avons tant dirigé, désiré, pardon, dans notre vie, quand nos yeux se referment sur ce que nous avons tant désiré, je le répète, tant convoités, eh bien, lorsqu'ils vont véritablement voir de moins en moins, eh bien, nous voyons que toutes les lueurs de la terre qui nous faisaient avancer, eh bien, vont véritablement péricliter. Quand les lueurs de la terre s'éteignent, alors, il ne reste entre nos mains que notre unique bien, le bâton de l'adoration, parce que nous serons, parce que nous avons été, parce que Dieu est toujours vainqueur sur nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse ce matin. Vous savez, on ne parle pas comme ça pour rien. Moi, j'ai donné ça, j'avais peut-être une trentaine d'années, ce message. Je l'ai redonné dans plusieurs églises. Mais une chose qui est certaine, même si c'est long, mais une chose qui est certaine, c'est le fond, c'est la base. Alors, il peut y avoir dans l'église toutes sortes de manifestations qui sont faites pour la vie d'église, les chants, toutes sortes de choses. Il y a mille et une choses à faire. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'essentiel, c'est véritablement de prendre la parole de Dieu comme la parole qui nous sauve, la parole qui fait de nous des hommes nouveaux, des hommes vivants en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci pour le miroir de Jacob. Ouais, on peut dire ça. Merci Seigneur parce que tu veux nous mettre nous-mêmes, chacun, chacune. Parce que nous croyons que quand tu appelles quelqu'un, un garçon, une fille, un homme, une femme, un vieillard, peu importe, eh bien tu l'as appelé parce que tu l'aimes. Ça c'est la première chose. Et nous n'avons pas à douter que nous avoir appelé auprès de toi, ce n'était pas profession religieuse, mais c'était faire une profession, eh bien d'appartenir, eh bien là à la compagnie de Jésus, à la vie en Jésus-Christ, à cette vie nouvelle. Alors merci Seigneur, parce que nous avons besoin parfois, et bien même dans un culte comme ceci, ou lorsque nous lisons la Bible, ou lorsqu'un prédicateur ou une prophétie, peu importe, eh bien nous montre le miroir de ce que nous sommes. Ne cassons pas le miroir. Ne brisons pas, en effet, le visage ou l'intérieur de notre vie, notre âme, notre cœur. Parce qu'en effet, Seigneur, ce que tu nous as bien choisi pour être tes fils, tes filles, tes disciples, tes évangélistes, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, eh bien, véritablement, vont marcher derrière Jésus pour indiquer, eh bien, le véritable chemin. C'est vrai qu'il y a des bâtons dans la vie, mais il y a des bâtons qui ont différents sens. Alors, donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, d'aller jusqu'au bout et de pouvoir adorer Dieu sur l'extrémité de notre bâton. Oui, parce que c'est la fin de vie, tout simplement. Et nous te bénissons et nous te remercions parce que tu as fait d'un Jacob, tu as fait d'un Moïse, qui n'était pas n'importe qui, tu as fait d'un Abraham, tu as fait en effet d'un David, et puis d'un Job, et puis de ceci et cela, il y en a des centaines et des centaines dans ta parole. Alors tu en as fait des hommes de Dieu, des Paul, des Pierre, etc., etc. Et nous savons qu'ils sont tous passés par le même chemin. Alors, moi je te prie pour l'église de Redon, je te prie pour l'église de Saint-Nazaire, je te prie pour les églises par lesquelles nous sommes passés, nous ne les avons pas oubliées. Et bien que véritablement des hommes et des femmes puissent voir Dieu face à face. Merci Jésus. Donne-moi de te voir face à face, Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Amen.